À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Dominique.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Laurent pour cette première émission de l'année. Bon, alors comme le veut la tradition, et avec grand plaisir, bah, je pense qu'on va souhaiter nos meilleurs voeux à tous. À toi Dominique, bien sûr.
Merci.
À notre ami Laurent. Aux auditeurs, parce que bah, sans auditeurs, on ne ferait pas d'émission de radio, hein, ça va de soi. Et les auteurs qui sont fidèles et puis qu'il faut remercier d'écouter une radio associative, c'est louable, c'est encourageant.
Oui, tout à fait,
je trouve,
c'est vrai.
Meilleurs voeux aussi à la radio qui nous accueille quand même, à Couleur FM,
je pense.
Donc à Laurent, on l'a déjà dit, qui nous supporte depuis des années. À Véronique, à Sandrine, à Titane, à Gérard, à Francis, ils se reconnaîtront tous, à Gérard le Rocker, à tous les animateurs, qu'ils soient bénévoles ou pas, et en souhaitant cette radio de beaux moments et puis une longue vie, hein, malgré les difficultés qu'ont les radios associatives en ce moment. Je crois qu'Couleur FM est bien solide et puis à des émissions, comme on dit, qui tiennent la route, n'est-ce pas, Dominique ?
Il me semble.
Qu'on peut souhaiter encore ? Nos meilleurs voeux à l'Italie, peut-être.
Oui.
Pays, comme le disait encore récemment quelqu'un, l'écrivait, qui a des richesses et des ressources incroyables. Je crois que c'est...
C'est une évidence.
C'est une évidence.
Oui, personne...
Meilleurs voeux à notre pays aussi, hein, à la France, et en espérant qu'on laisse... un peu de place à la culture, qu'on oublie un peu l'amorosité, puis qu'on avance dans l'optimisme, peut-être. Puis les meilleurs voeux à notre association aussi.
Hein, peut-être.
Qui a quelques projets déjà dans les tuyaux pour 2014, espérons qu'on les réalise.
Des projets musicaux, non ?
Des projets musicaux, des projets de voyage, les projets musicaux, a priori, une soirée le 7 mars... un peu similaire avec d'autres interprètes à celle de l'an passé qu'on avait réservée à deux jeunes femmes, Céline Prévost et Erika Boschiero. Je crois que ça avait été une belle soirée. Et puis un projet, un vieux projet qu'on voudrait réaliser au mois d'octobre d'un festival ici de musique dite traditionnelle et populaire. Et qu'on va s'efforcer de mettre en place. Projet franco-italien avec nos amis de la région de Vénétie, de Rovigo et de Padoue. Voilà, et puis toujours des voyages, nos cours, des émissions évidemment sur Couleur FM, tant sur la chanson que sur l'actualité ou sur des sujets liés à l'histoire ou à l'actualité. Voilà, donc tout un beau programme. Donc, on va peut-être commencer en chanson. Tiens, ce sera un bon départ. Je crois que quoi de mieux de commencer par une chanson qui s'appelle « Chanson des 12 mois
oh, »,«
Canzone dei 12 mesi », qu'avait enregistré Francesco Guccini, qui est un des grands cantautori, auteurs, compositeurs, interprètes italiens. C'est une chanson qu'il chante toujours, d'ailleurs. Et qui commence par le mois de janvier, bien entendu. Le mois de janvier arrive, silencieux et léger, fleuve endormi. Mon corps malade se repose comme neige entre ses berges. Et c'est une suite de chants s'étend le long de la plaine. Les arbres noirs fatigués sont comme des amants après l'aventure. Après, il y a février, bien sûr. Mars et ses pluies, février son carnaval. Et chaque mois est décrit et chanté. Et puis, il y a un refrain qui revient. Au jour, au mois qui vous en allez toujours. Toujours égaux à vous et ma vie. Ma vie, donc, vous est semblable, différente chaque année et chaque année identique. La main des tarots que tu n'as jamais su jouer, donc tu n'as jamais su, effectivement, les règles. Donc, voilà. Donc, Canzone dei dodici mesi par Francesco Guccini.
Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato. Sono distese lungo la pianura bianche file di campi, sono come amanti dopo l'avventura, neri alberi stanchi. Viene febbraio e il mondo è a capochino, ma nei conviti in piazza lascia i dolori vesti d'Arlecchino, il carnevale impazza. L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza, nei primi giorni di malato sole, la primavera danza. Cantando marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo, porta la neve sciolta nelle rocce, il riso del disgelo. Riempi il bicchiere con l'inverno butta, la penitenza vana, l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardia è già lontana. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi, questa vita mia, diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, a mano di tarocchi, che non sai mai giocare. Con giorni lunghi al sonno dedicati, il dolce aprile viene, quali segreti scoprì in te il poeta, che ti chiamò crudele. Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi, dopo fatto l'amore, come la terra dorme nella notte, dopo un giorno di sole. Ben venga maggio il gonfalone amico, ben venga primavera, il nuovo amore getti via l'antico, nell'ombra della sera. Ben venga maggio, ben venga la rosa, che dei poeti il fiore, mentre la canto con la mia chitarra, brindo accenni a folgore. Giugno che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, il tuo giorno sotto al sole caldo, ci sono nato io. E con le messi che hai fra le tue mani, ci porti il tuo tesoro, con le tue spighe doni all'uomo il pane, alle femmine loro. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi, è questa vita mia, diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi. Che non sai mai giocare. Con giorni lunghi di colori chiari, ecco luglio il leone, riposa, bevi e il mondo attorno appare, come in una visione. Non si lavora agosto nelle stanche, due lunghe oziose ore, ma è come adesso, è bello inebriarsi di vino e di calore. Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età, dopo l'estate porti il dono usato della perplessità. Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità, come scintille brucia nel tuo fuoco le possibilità. Non so se tutti hanno capito ottobre, la tua grande bellezza, nei chili grassi come pance piene, prepari mostro e brezza. Lungo i miei monti, come uccelli tristi, fuggo, non ubi pazze, lunghi miei monti colorati in rame, fumano nubi basse, fumano nubi basse. Buongiorno, mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia, diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Cala novembre e le inquietanti nebbie, gravi coprono gli orti, lunghi giardini consacrati al pianto, si festeggiano i morti, si festeggiano i morti. Cade la pioggia ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada, eppure un giorno cambierà la sorte, in fango della strada, in fango della strada. E mi addormento come un letargo, dicembre alle tue porte, lunghi tuoi giorni con la mente spargo, tristi semi di morte, tristi semi di morte. Uomini e cose lasciano per terra, esili ombre pigre, ma nei tuoi giorni dai profeti detti, nasce Cristo la tigre, nasce Cristo la tigre. E ho giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia, diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi, che non sai mai giocare, 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 che non sai mai giocare.
Francesco Guccini.
Très belle chanson, je ne la connaissais pas.
Février c'est de mars.
Vraiment super.
Alors, on ne peut pas toute la traduire, évidemment, parce qu'elle est très très longue. On a parlé de janvier, février, mars, d'avril et ses jours dédiés aux rêves, de mai et avec l'arrivée de la rose, la fleur des poètes, juin, le mois de la maturité, juillet, aux longues journées où le lion se repose et où tu bois, août, où tu t'enivres de chaleur, septembre, le mois de la réflexion et de la perplexité, octobre, dont on ignore que tous n'ont pas compris pour sa grande beauté, où tu prépares dans les tonneaux l'ébriété et le mou, novembre et ses brouillards inquiétants, et le mois de décembre où les hommes et les choses laissent par terre des ombres paresseuses. Voilà la chanson de Francesco Guccini. Voilà, alors cette année 2014 démarre, alors comme d'habitude, et on essaie de faire, non pas un bilan, mais de tirer quelques enseignements ou quelques faits marquants de l'année précédente. Alors pour l'année 2013, pour l'Italie, puisque cette émission est souvent consacrée à l'Italie et à ses rapports avec la France, et ben cette année 2013 a été très mouvementée, j'allais dire comme souvent en Italie, avec une crise ou des crises très présentes, un emploi qui était malmené, des partis politiques qui se cherchent, des départs de jeunes, surtout diplômés à l'étranger, une année qui a aussi, et tant mieux, j'allais dire, qui a signé la mise à l'écart quand même de ce personnage dont on a trop souvent parlé, Berlusconi. D'une part par décision de justice et puis par vote du Sénat dans un deuxième temps, qui a l'air de vouloir refonder un peu son parti, son ancien parti Forza Italia, pour tenter un retour, mais à mon avis peu probable et en tous les cas peu souhaitable. Je pense que là, c'est un coup d'épée, espérons-le, dans l'eau. Et puis, il y a l'arrivée de Enrico Letta, qui est président du Conseil, que beaucoup disent, décrivent comme quelqu'un de...
Fallot,
de mou, de lourd, de... Jusqu'à maintenant, à mon avis, enfin ça c'est tout à fait un jugement peut-être très subjectif, mais n'est pas... En tous les cas, se tient une ligne de conduite. Il a une certaine forme de fermeté, parce que son discours, ses discours sont assez clairs. Alors en revanche, on lui reproche effectivement d'être à la solde de l'Europe, d'être dans le cadre fixé par l'Europe, de faire de l'austérité. Bon, tout ça est un peu également vrai. Question, peut-il faire autrement ? C'est le grand débat qu'on a dans tous nos pays. Mais bon, personnellement, je trouve qu'il redonne une certaine allure, on va dire, peut-être quand même, au pays. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique.
Je pense qu'effectivement, sur le plan de l'éthique des hommes politiques, il me semble qu'il n'est pas le dernier.
Voilà, hein? Tout à fait. Il est, en tous les cas, effectivement, à ce niveau-là, de l'éthique et de la... Il ne traîne aucune casserole, dirons-nous.
Ouais. C'est un europhile convaincu, ce qui n'est pas inintéressant. Il a des liens réguliers avec la France.
Tout à fait. Dont il parle la langue, d'ailleurs.
Oui, non, je pense que c'est quelqu'un qui mérite le respect.
Alors, il y a un mouvement dont on parle beaucoup depuis un ou deux mois en Italie, on en a eu quelques brins en France, mais qui est en fait un mouvement qui est né il y a plus longtemps que ces derniers mois, qui s'appelle le mouvement dei Forconi. Alors, les Forconi, c'est ces fourches à trois dents. Alors, quelles sont les dents? C'est un mouvement qui, en fait, est né en Sicile, ce mouvement. Il est né il y a un an et demi environ en Sicile. Et au départ, c'était un mouvement qui avait été fondé par quelques agriculteurs et quelques transporteurs qui protestaient contre la fiscalité qu'ils estimaient trop haute et qui mettait leurs entreprises, entre guillemets, en danger. Et donc c'était un mouvement très régional, sicilien, pour le répéter, donc il y a environ un an et demi. Et puis ben, finalement, c'est un mouvement qui maintenant s'est étendu et qui est un mouvement au départ qui est basé sur la révolte fiscale, voilà comme il est présenté en tous les cas, qui exprime un ras-le-bol donc sur cette fiscalité que l'on estime étouffante. Et ce mouvement des Forconi donc se développe, et puis il a organisé quelques manifestations à Bologne, à Turin. Il n'y a pas honnêtement un monde fou à ces manifestations. Par contre, ce sont des gens qui sont plutôt violents, on va dire, dans le comportement. Et alors, qui il regroupe ? Il va, comme je le disais tout à l'heure, des agriculteurs, transporteurs, il y a des syndicats, il y a des petits patrons, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, et il y a aussi malheureusement des gens d'extrême droite, il y a quelques gens d'extrême gauche, c'est-à-dire il y a aussi, en parti politique, il y a surtout le parti de Grillo, enfin quelques éléments du mouvement 5 étoiles, hein. Il y a des supporters de foot, enfin il y a des gens qui se disent anarchistes, en fait c'est un ramassis, j'allais dire, et le mot est choisi volontairement, de tas de gens qui en ont certes ras-le-bol, qui se disent opprimés par la fiscalité. Au niveau des projets, il n'y a pas grand-chose. Ce qui inquiète, pour en avoir parlé avec plusieurs amis italiens, ce qui les inquiète surtout, c'est ce côté un peu violent et qui a envie, en plus, de fomenter quelque chose un petit peu de provocateur dans la violence. Voilà. Mais enfin, par exemple, je parlais de manifestations à Turin et Bologne. À Bologne, ils se sont battus entre eux. Les gens qui défilaient se sont battus entre eux. Donc, c'est... Alors, on l'assimile...
Au Béret Rouge.
Bonnet Rouge, voilà.
Bonnet Rouge.
Bonnet Rouge, qui sont nés dans une région, puisque pour les Forconi, c'était en Sicile, les Bonnet Rouge, c'était en Bretagne. Bon, en France, le mouvement s'est pas étendu au-delà de la Bretagne, a priori, ou alors il a pris d'autres noms. Par contre, les Bonnets Rouges étaient plus nombreux que les Forconi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut donner comme valeur à ces mouvements? C'est une discussion sans fin. Certes, ce n'est pas un signe de bonne santé, c'est une évidence. Est-ce que c'est la forme la plus intelligente de réaliser ou de protester? Mais enfin, les partis politiques sont un peu dépassés avec ça. Hein. Ils ne savent pas trop comment gérer ce type de mouvement. Voilà, alors c'était un des mouvements de la fin d'année 2013. Mais en 2013, il y a aussi eu de la chanson, heureusement. Et en décembre 2013, il y a le groupe Waragnan, qui est un groupe dont on avait parlé dans une ancienne émission. C'est un groupe des Pouilles. C'est un groupe des Pouilles qui fait beaucoup de recherches dans la musique traditionnelle de la Tamurja, qui est une des parties des Pouilles, mais ce sont d'excellents musiciens, et la chanteuse Maria Mora Marco, vous l'entendrez, a une voix assez exceptionnelle. Donc là, on va écouter un enregistrement public qui est d'un album qui est sorti donc fin 2013, en décembre, et on va écouter un morceau qui s'appelle la Tchalede, qui est en dialecte des Pouilles. Alors c'est un... Ce morceau, c'est pratiquement une recette sur une musique de tarentelle, on va dire. Et la tchalède, c'est un plat typique de leur zone, de leur région, qui est fait à partir de pain rassis, de tomates, d'oignons, d'ail, et puis de pousses de navets, d'olives, d'œufs et de pommes de terre. Voilà comment une recette peut donner une chanson. Démarche intéressante. Donc le groupe Warrenia.
Sotto quei gomito la mattina, la ghiaccio po' di putrasina, e c'è tino dove va cotta, sperda sciutta, dalla notte la ci guai, recinge, caipa una spicchia, da ghiaccio me terrei. Po a fermano buena picca, empanisce pollo buena sicca, metto brodo soppo buena, casla suppa chiena chiai, e pa falla me chiasa buena, zitta d'enchi un giammana. Nan zitta d'enchi un giammana. Metto brodo la mattina,
tu as l'air perplexe, étonné.
Ah, étonné, étonné.
Oui, non, c'est intéressant. Oui. C'est un groupe qui a multifacette et qui est bien intéressant. Alors, pour reparler de l'année 2013, la Repubblica avait demandé à un institut de sondage une vision des rapports qu'avaient les Italiens avec l'État, la politique, l'Église, l'école, etc., etc. Et ce sondage est assez intéressant. Si on regarde, par exemple, la foi qu'ont les Italiens dans leurs institutions, alors on prend une différence entre 2012 et 2013. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, par exemple, dans les forces de l'ordre, plus confiance ou moins confiance aux forces de l'ordre, l'Église, l'école, le président de la République, l'Union européenne, etc., etc. On ne va pas tous les passer en revue. Souvent, les rubriques, disons, marquent une certaine baisse ou découragement ou faiblesse par rapport à l'année d'avant. Alors, si on regarde par exemple l'Église, l'Église est en hausse, puisque selon ce sondage, en 2012, 44% des Italiens avaient confiance en leur Église, et 54% maintenant. Mais on y reviendra tout à l'heure sans doute là-dessus, ce qui fait une augmentation assez importante. Intéressante. Le président de la République, c'est plutôt une baisse. Mmh. C'est plutôt une baisse, alors que Napolitano est plutôt quelqu'un qui est relativement coté au niveau des Italiens, mais peut-être que la quasi-obligation de redémarrage de sa candidature a peut-être déçu la majorité d'entre eux. L'Union européenne, alors là, c'est une chute vertigineuse, alors que les Italiens, comme tu le disais d'ailleurs pour l'État, sont plutôt très européens en général, hein, depuis longtemps. Mais là, on aurait une baisse de 43 à 32%, ce qui est effectivement une grosse chute. Par contre, si on regarde les associations d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que là, la confiance des Italiens en leurs entreprises, petites entreprises souvent, est passée de 20 à 29%.
Grosse augmentation. Confiance.
On a confiance en entreprises. Alors, c'est vrai que le rapport des Italiens aux entreprises est différent de celui des Français aux entreprises. Le côté entreprise en France n'est pas toujours très mis en avant ou très prisé, il faut le reconnaître. Et les Italiens ont peut-être aussi beaucoup de petites entreprises, un tissu plus de taille plus petite, mais souvent innovant. Et là, visiblement, ils ont toujours confiance en les entreprises. En parenthèse, en parlant d'entreprise, mais là, beaucoup plus grosse, le mariage Chrysler-Fiat s'est traduit maintenant par une prise en main totale de Chrysler par Fiat. Hein. Mais là, on parlait plutôt dans le sondage des petites entreprises. Après, si on regarde le rapport public-privé, on s'aperçoit que les Italiens, entre le public et le privé, il y a une augmentation, c'est-à-dire les gens souhaitent plus un passage du public au privé, puisqu'ils étaient 21% en 2012, ils sont 26% en 2013, ce qui n'est pas non plus un pourcentage énorme, mais qui est en augmentation. Alors après, on a fait un sondage sur l'engagement des personnes dans des partis politiques, dans des initiatives de quartier, des problèmes d'écologie, des associations culturelles, sportives, etc., etc. Et qu'est-ce que l'on voit ? On s'aperçoit, par exemple, que pour tout ce qui est problème de quartier, l'augmentation est assez sensible entre 2012 et 2013. On passe de 27 à 31%, ce qui veut dire que peut-être qu'il y a des initiatives locales qui commencent à se développer et des discussions sans doute qui s'installent. L'écologie, il y a aussi une augmentation sensible puisqu'on passe de 28 à 34. Et les associations culturelles et sportives également parce qu'on passe de 44 à presque 50%. Donc c'est plutôt une augmentation intéressante. Alors, après, si on voit la foi ou la fidélité, la confiance, j'allais dire plutôt, envers les institutions politiques, alors là, c'est de 2012 à 2013, et même si on remonte à 2011, voire on a même pris dans ce sondage spécifique 2005, on est passé de 41% de confiance aux institutions politiques en 2005 à 24 en 2013. C'est-à-dire que le manque politique n'a pas la cote, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, est-ce que l'État devrait améliorer les services, sous-entendu public, ou réduire les impôts ? Bon, inutile de dire que si on compare à 8 ans en arrière, c'est surtout la diminution des impôts qui intéresse les Italiens, 70% contre 30% pour l'amélioration des services. Oui, bien sûr, il faudra peut-être expliquer à quoi servent les impôts aussi, s'ils sont bien appliqués plutôt. Après, est-ce que vous préférez un régime démocratique et autoritaire ? Je pense que la question n'est pas innocente. C'est comme toute crise fait naître des extrêmes. Et on veut voir si cette envie d'autorité, sous-entendu d'extrême, est sensible ou non en Italie. Bon, par rapport à 2012, il y a une légère érosion de la volonté de démocratie par rapport à un gouvernement fort, on va appeler ça comme ça pour être poli, mais en fait, on reste quand même dans un chiffre de 70% qui évidemment ont plus confiance en la démocratie. Par contre, il y a un autre sondage assez étrange. Est-ce que on peut être ou non sans parti En démocratie quand même, alors, là le sondage est assez étonnant, mais on voit que là encore les partis politiques ne sont pas très bien cotés. Voilà, alors après par contre, si on parle de l'économie, de la pression fiscale, de la politique du pays, de la corruption, de la crédibilité de l'Italie au niveau international... alors là, c'est une chute vertigineuse. Ça veut dire qu'il y a une morosité qui s'est installée et on n'a pas confiance. On pense que tous ces critères sont en chute libre. Mais alors, bizarrement, si on est dans les attentes pour 2014, mais attente, ce n'est pas seulement un rêve pieux, c'est vraiment une sorte d'attente qu'on pense être plus ou moins satisfaite. Et bien là, bizarrement, on pense que l'économie italienne va plutôt se relever, que la politique pourrait aller mieux, que la crédibilité du pays va elle aussi croître, que le revenu par habitant va augmenter et qu'on sera plutôt dans un pays un peu plus sûr. Ce qui veut dire quand même que... c'est un peu l'ambiguïté et toujours cette dualité chez les Italiens. À la fois, on les croit complètement déboussolés, perdus, très pessimistes. Et puis, en même temps, il y a cet espoir-là, au fond d'eux, qui existe toujours. Après, il y avait le dernier sondage. C'est sur l'élection directe du président de la République, puisque le président de la République n'est pas élu au suffrage universel en Italie. Et là, visiblement, une grande majorité d'Italiens souhaiteraient qu'il soit élu au suffrage universel. Alors qu'en France, on commence à dire que le suffrage universel pour le président, c'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est assez intéressant. Voilà un tableau pour aller faire une petite peinture de la société italienne en 2013. Et toi, Dominique, tu voulais nous parler de celui qui, pour toi, j'allais rajouter, pas que pour toi d'ailleurs, serait l'homme de l'année, on va dire.
Non,
comme
pas
ça.
Pour moi, c'est le magazine américain bien connu Time qui chaque année procède à ce genre de désignation. Et cette année, effectivement, et c'est pas vraiment une surprise, hein, c'est le pape François, pour un certain nombre de raisons, peut-être déjà par sa façon de faire, c'est la manière dont il entre en relation avec tous ceux qu'il rencontre, une très grande simplicité. C'est pas un révolutionnaire, manifestement. L'enseignement de la doctrine risque de ne pas bouger beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention aux plus pauvres. Son premier voyage, c'est pas un hasard. Il l'a fait à Lampedusa, hein, sur cette fameuse île où échouent tous les réfugiés malheureux, ceux en tout cas qui ont réussi à traverser la mer. Et c'est quelqu'un d'ouvert, très ouvert aux autres religions. Bref, j'ai l'impression que cette simplicité passe beaucoup auprès des gens et pas seulement des chrétiens. Voilà.
Alors, curieusement, là aussi pour en discuter avec des amis italiens, c'est vrai que même des gens qui ne sont pas du tout religieux ont plutôt une confiance à lui. J'allais dire presque tous, parce que... Une de ces personnes amies me disait, oui, il prône une certaine parole, mais il parle devant des calices en or. Donc où est Saint-François d'Assise, me disait-il. Par contre, d'autres non, sont plutôt dans cette mouvance qui dit, nous, on n'est pas spécialement croyants, mais c'est vrai que ce pape-là est quand même visiblement assez différent de peut-être d'autres en qui ils avaient peut-être moins, sinon confiance, du moins ils voyaient moins de visibilité.
En tout cas, peut-être ça explique un petit peu le chiffre qu'on a donné tout à l'heure du sondage des
Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de l'augmentation. Hein. Est-ce que c'est l'Italie qui a un regain de foi en l'Église?
On n'est pas sûr du tout.
C'est vrai que ça semblerait plutôt lié à
la personnalité.
J'ai même entendu Mario Soares, l'ex président portugais, qui avouait sa non-religion, mais qui parlait effectivement bien de ce pape. Voilà, alors bon, est-ce que c'est plus facile d'être pape que chef d'un gouvernement? Là aussi, c'est toujours les mêmes débats. Alors par contre, moi, j'ai amené une chanson qui s'appelle Affacciati, Affacciati. Alors Affacciati parce que le pape, quand il fait ses discours, place Saint-Pierre, se met à la fenêtre, donc il est en face des personnes qui sont en bas, et des croyants ou non-croyants d'ailleurs, qui viennent place Saint-Pierre. Et en 1975, Eduardo Benato avait fait une chanson qui s'appelait donc Affacciati, Affacciati, et qui faisait allusion au pape de l'époque qui était, si je me souviens bien, Paul VI. Alors, cet album dont est tirée d'ailleurs cette chanson s'appelait Io che non sono l'imperatore, et puis il y avait une espèce de métro qui avait été dessiné par Eduardo Benato sur le parcours de métro qui avait été dessiné sur la pochette et qui voulait, parce que Benato avait une thèse d'architecture et il avait fait un plan de métro pour que ces métros arrivent dans les parties de Naples les plus pauvres et pas seulement chez les quartiers les plus aisés. Donc c'était un album très social et contestataire et politique. Et il avait donc pas manqué, là aussi, de faire un passage sur le pape de l'époque où il dit, en gros, présente toi face à nous, fais-nous savoir combien nous sommes mauvais. Ne te lasse pas, dis-nous que ça va finir mal, bénis-nous et tous, nous les mauvais qui continuons à semer le mal, fais-nous un de tes discours sur la paix universelle, etc., etc., avec tes habits blancs, il y a bientôt presque 2000 ans que tu es là à regarder. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que les paroles sont souvent, c'est son impression à lui, sont des paroles, mais ne sont pas suivies des faits, elles sont vaines. Alors, il fallait dire qu'il était assez agacé à l'époque parce que le pape avait notamment donné son avis sur l'avortement. Et donc, voilà ce qui avait suscité l'agacement d'Eduardo Benato dans cette chanson, qui est une bonne chanson, Affacciati, Affacciati. Voilà, Eduardo Bennato, Facciatia Facciatia, et Eduardo Bennato, qui chante toujours, bien sûr, mais qui avait une énorme cote au niveau des universités. C'était le style de folk song de l'époque.
Grand joueur d'harmonica.
Oui, tout à fait. C'est un des premiers, d'ailleurs, qui a amené, je sais pas, c'est pas le premier qui a amené l'harmonica en comme Europe. Accompagnement musical dans ce style de chanson, en tout cas. Voilà, alors, une autre enquête pour 2013 a été faite, commandée par l'université La Sapienza, et qui...
C'est Rome.
Oui, bien sûr, qui parle de la qualité de la vie en Italie. Et bien, malgré la crise, visiblement, les chiffres sont plutôt en hausse, puisqu'ils n'ont jamais été aussi bons depuis 5 ans. Alors là, la région où on dit que la meilleure qualité de vie se trouve en Italie, en Italie tout au moins, c'est le Trentin-Ottadie, cette région du Nord, mais qui est souvent la région où on considère que la vie, où il fait le mieux vivre, disons. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la qualité de la vie? Ben, ça fait appel à la sécurité, à la santé, à l'école, à l'éducation, à l'écologie, etc., etc. Et donc, c'est cette région qui est première. La deuxième, au niveau du classement, c'est la Vénétie, avec notamment la province de Belluno, et Belluno lui-même, qui, au niveau des villes, est considéré donc deuxième derrière Trento et Bolzano, qui sont égalités au niveau de la qualité de vie. Au niveau des villes, alors c'est vrai que la majorité des villes se trouvent dans ce classement dans le nord, et le sud est plutôt à ce niveau-là, perd des places par rapport aux années précédentes. Si on regarde, on parlait de Belluno, Belluno est par contre considéré comme la ville où l'environnement, l'écologie et les efforts à ce niveau-là sont les plus marquants. Et là, au niveau des villes du Sud, au niveau écologique, en tous les cas, elles sont également bien placées, puisque Matera et Potenza sont deuxième et troisième place. Et puis qu'il y a quelques villes sardes relativement aussi bien passées. Si on parle de la sécurité, alors là, ce sont surtout les grosses villes qui sont considérées comme les moins sûres. Et notamment, bien sûr, Milan, Rome, Florence. Un peu plus étonnant pour Florence, mais c'est le cas. Naples... Et par contre, des villes qui, comme Oristano, Nuoro, des petites villes sardes sont parmi les 10 premières, c'est-à-dire les mieux cotées au niveau de leur sécurité. Après, si on parle de la santé, c'est Pise qui est considéré comme le lieu où la santé est la meilleure, c'est-à-dire les équipements, les postes d'hôpitaux et les équipements spécialisés en cardiologie ou autres types de maladies, on va dire, sont les meilleurs. C'est surtout donc Pise et là, bien évidemment, ce sont les plus grosses villes qui sont les mieux cotées. Milan est au deuxième poste, au deuxième place, pardon. Rome est en cinquième place. Florence est aussi dans les premiers. Florence, qui lui aussi, au niveau cardio, est plutôt une ville réputée. Et un des grands hôpitaux de Florence est d'ailleurs en relation très étroite avec Paris là-dessus. Voilà. On va... allez, ben maintenant on va te laisser la parole au niveau d'un ouvrage dans notre rubrique littéraire. Et je crois que tu nous as choisi... je sais pas, après tout, tu vas
j'ai choisi
trois mêmes de Valentina d'Urbano.
Voilà, le premier roman, parce qu'elle en a écrit un deuxième qui est sorti en septembre 2013. Celui-là est sorti en 2012 et il a été traduit, si je ne me trompe, en 2013. Donc, Le bruit de tes pas, Il rumore dei tuoi passi. C'est traduit magnifiquement par Nathalie Bauer chez Philippe Rey. Et c'est une histoire d'amour de deux enfants qui deviennent adolescents, qui grandissent. Une histoire d'amour qui finit mal. Sur fond de quartiers pauvres, d'exclus, d'alcool, de drogue, de violence parentale. C'est une très belle histoire d'amour. Et la prouesse de la romancière, c'est qu'elle commence cette histoire par la fin. J'ai envie de lire, tout simplement pour donner le ton de ce roman, j'ai envie de lire... les premières pages. Aujourd'hui aussi, on nous a appelés comme ça. Il y avait un tas de gens dans l'église. Donc, le début du livre raconte la fin de l'histoire. Alfredo meurt et Béatrice va à son enterrement. Et c'est magnifique de découvrir comment cette jeune romancière, donc c'est son premier roman, elle a 28 ans, c'est magnifique de découvrir comment elle va maintenir, j'ose pas dire le suspense, parce qu'une histoire d'amour, c'est pas une question de suspense, mais maintenir l'intérêt pour ce qu'elle nous raconte. Il y avait un tas de gens dans l'église, ils murmuraient tous la même chose. Je ne me suis pas retourné, j'ai parcouru d'un pas lent la nef au sol brillant et ils se sont écartés devant moi. Ils me regardaient à la dérobée parce qu'autrement c'est mal. J'ai eu l'impression d'être importante au centre de l'attention et j'ai trouvé absurde que cela m'arrive ainsi. Il me semblait que tous les yeux étaient pointés sur moi, même si les gens avaient l'air hébétés, l'air de ne pas savoir quoi faire. Ne vous inquiétez pas, avais-je envie de leur dire. Personne ne sait jamais quoi faire dans ces cas-là. J'ai déposé le tournesol sur le cercueil et un baiser à l'endroit qui correspondait probablement à sa tête. Puis j'ai rebroussé chemin du même pas lent et suis sorti. Vu du parvis, le tournesol paraissait assez lourd pour tout écraser. Les gens nous appelaient les jumeaux. Maintenant, j'ignore comment ils m'appelleront. Peut-être enfin par mon prénom, Béatrice, un prénom particulier, insolite par ici. Ma mère l'avait entendu prononcer à la télévision dans un film qui parlait d'une princesse. Qui sait ? L'idée de la princesse lui a plu, sans doute. Je ne lui ai jamais posé la question. La journée est belle. Un ciel encore bleu surplombe la forteresse. Je suis retourné à l'église et je suis resté jusqu'à la fin, assis au premier rang. J'ai écouté la messe, me suis levé au bon moment et ai fait semblant de prier comme les autres. Malgré la fatigue, l'envie de dormir et la nausée, j'ai stimulé la dignité. J'ai même faim de m'intéresser à cette exhibition ridicule, au bouquet de fleurs autour du cercueil, à la nef bondée. J'ai esquissé un sourire triste, fait mine d'apprécier les phrases de circonstance et les étreintes pathétiques, dans le seul but de contenter l'assistance. Don Antonio a déclaré qu'Alfredo était un brave garçon, que tout le monde l'aimait, que nous devions prier pour son âme sans inquiétude. Quand le Seigneur rappelle à lui des jeunes, c'est parce qu'il les aime, parce qu'il tient à leur présence à ses côtés dans le royaume des cieux. Mais j'avais beau m'y efforcer, je n'arrivais pas à me représenter Alfredo dans le royaume des cieux. Le curé a continué de parler de lui comme s'il le connaissait depuis toujours et l'avait vu la veille. Il répétait qu'il était bon, un bon garçon, bon comme du bon pain, qu'il avait certainement pensé à sa famille et à ceux qu'il aimait au cours de ses derniers instants. Et ça m'a rendu dingue. Alfredo n'était pas bon et personne ne l'aimait, je le sais. Quand on est aimé, on ne s'expose pas au risque de mourir seul comme un chien. Quand on est aimé, on a la possibilité de s'en sortir. Non, Alfredo était un crétin. Il n'a été qu'un imbécile de sa naissance jusqu'à sa mort. Et quand il a crevé, il n'a pensé à rien. Il ne s'en est probablement même pas aperçu. Alfredo ne s'apercevait jamais de rien. Il s'abandonnait aux choses sans opposer de résistance. C'était un géniard, un morveux, ce genre de mec qu'on a d'instinct envie de tabasser. Ce genre de mec dont la seule présence vous insupporte. Moi, je le détestais. Et je l'aimais plus que je ne le croyais. Maintenant, je le sais. Je m'en vais. Ce soir, je quitte la forteresse, ce quartier infect d'immeubles délabrés et de rues poussiéreuses à l'asphalte dévoré par les ans. Malgré son nom désuet, son nom poétique, il n'a rien de noble. Nous n'avons pas besoin d'une forteresse. Les murs ne servent à rien quand c'est contre soi-même qu'on doit se protéger. Alfredo prétendait qu'il fallait se résigner, se contenter, que vivre dans ce quartier équivalait à s'engager dans un entonnoir. Il vous avale et vous empêche de ressortir. Moi, je suis capable de vivre ailleurs. Je veux être quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, juste différente. Je ne veux plus avoir sur la peau l'odeur des halls sombres et dans les narines la saleté de ces rues. J'en ai assez de regarder ces immeubles blancs, transpercés d'antennes illégales dont le crépi se lézarde, pourrit et tombe en miettes à l'image de certaines vies. Voilà, quand j'ai lu ces premières pages, J'ai pas pu m'arrêter. Je trouve que c'est d'une très grande beauté.
Donc, c'est une évidence.
C'est très fort.
Là, donc, tu l'as lu en traduction. Il existe traduction française.
C'est donc la traduction française. Le texte original est merveilleux. Je l'ai lu aussi en italien. C'est un très, très, très beau livre.
Et je disais ça pour savoir donc chez quel éditeur on peut le trouver.
C'est Philippe Rey qui propose la traduction. Et en l'édition italienne, c'est Longanesi.
D'accord. Alors, comme je sais que tu aimes Grazia De Marchi.
Ah oui, beaucoup.
Et comme Valentin d'Urbano est né dans la banlieue de Rome.
Oui.
Je voudrais qu'on réécoute une chanson qui s'appelle I ragazzi giù nel campo. I ragazzi giù nel campo, c'est une chanson qui avait été écrite par Pasolini. Pasolini avec Dacia Maraini, et qui avait été, c'était donc un texte de Pasolini sur une musique de Manos Sagidakis, qui était la musique du film Sweet Movie. Et cette chanson a été interprétée par Grazia De Marchi dans un album qu'elle avait consacré entièrement à des œuvres de Pasolini. Et d'ailleurs, elle le refait, un hommage à Pasolini, en Sardaigne en ce moment. Et elle a été aussi chantée par d'autres chanteurs italiens, aussi par des chanteurs d'autres nationalités, puisque Anna Prucnal l'avait aussi interprétée en italien, puisque Anna Prucnal chantait également polonais, chantait également en français et en italien. Donc, ce texte parle de ces mauvais garçons, on va dire, sur les terrains vagues romains, qui, à la fois, le texte montre leur dureté et aussi leur côté plus sensible et plus, entre guillemets, humain, mais ils sont aussi humains dans leur dureté. Voilà, alors elle commence comme si les garçons là-bas, sur le terrain, se moquent du temps qu'il fait, mais ils se jettent à l'eau dans les rivières. Ces garçons là-bas coursent un fou, chassent un fou, ils l'étranglent de leurs mains, ils brûlent son visage. Viens, fille de la lune, de l'étoile du matin, offre à ces garçons les caresses du grand ciel. Ces garçons là-bas coursent les bourgeois, ils les taillent en morceaux, leur tête, et des ennemis comme des fidèles. Ces garçons là-bas cueillent des branches de romarin pour attraper les filles. Et ces garçons là-bas coursent les riches, ils lui font ôter ses dents en or et ils les portent pour les vendre, bien sûr, au marché. Viens, fille de la lune, de l'étoile du matin, offre les caresses du grand ciel. Là-bas, ces garçons là-bas n'ont pas de mémoire, ils vendent leurs ancêtres, mais ils en sont pris ensuite de tristesse, c'est-à-dire qu'ils ont des remords. Voilà. I ragazzi giù nel campo de Pasolini, chanté par Grazia De Marchi.
Ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro i fiumi per pescare la croce premio. E ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in al mare. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran. I ragazzi giù nel campo con la
borghesi tagliano a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi da tristezza.
Grazie De Marchi.
Très belle voix, très belle musique.
Très belle voix, très belle musique, belle puissante. Chanson, hein. Puissante. Ouais. Grazie, qui avait, qu'on a fini plusieurs fois, qui avait rendu notamment un hommage à Brel chanté en italien. Et c'était,
ah, ça doit être magnifique.
Elle est à la fin d'un spectacle complètement vidé, tellement elle se donne. Elle avait travaillé une époque avec Juliette Gréco.
Ah oui.
Elle est un peu plus jeune, mais donc c'est quelqu'un quand même d'une belle dimension. Voilà, bon, on va peut-être finir par une petite recette. On va donner la recette d'une focaccia. Alors, c'est la période des olives noires, donc on va donner une focaccia à la mozzarella, aux olives noires et au romarin, si tu es d'accord. Hein,
non, mais bien sûr. Bon.
Si nos auditeurs,
on va la goûter ?
On va la goûter
ah,
après.
Oui.
Bon, tout auditeur qui veut nous proposer.
Alors, ça se boit avec quoi ? Pardon,
ah, bah,
je commence toujours par ça.
Là, tout dépend déjà si on boit ou pas du vin, si on boit de l'alcool et si on a envie... effectivement de boire de l'alcool, bah, je sais pas, avec un vin plutôt rouge quand même, hein, dans ce cas-là. Hein. Après, bon, libre à toi le choix. Et de ce que tu peux trouver en vin italien ici, notamment à Champaré, il y a un bon magasin, on ne peut pas donner de nom, peut-être pas de publicité. Et, ou un bon vin français aussi, pourquoi pas. Les olives noires, bah, si vous ne trouvez pas des olives italiennes, prenez les olives d'oignon, c'est évidemment. Hein. Donc, comme ingrédient, 210 ml d'eau que vous prenez tiède, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 350 g de farine, un peu plus même, parce qu'après vous aurez à fariner, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure de boulanger, 140 g de mozzarella, et puis vous prenez quelques olives dénoyautées, vous les découpez, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et des brins de romarin. Je répète, 210 ml d'eau, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, dans un premier temps, 350 g de farine, 1 demi-cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de levure, 140 g de mozzarella, et des olives dénoyautées, et puis après vous aurez pour la garniture de nouveau à vous munir de 2 cuillères à soupe, d'huile d'olive et des brins de romarin. Donc vous mettez la farine dans un récipient, vous faites un puits classique, vous ajoutez le sel, le sucre, la levure, l'huile, vous ajoutez de l'eau au fur et à mesure et vous pétrissez. Lorsque vous considérez que votre pâte est assez souple, vous y incorporez la mozzarella que vous aurez taillée en petits morceaux, émiettés, on peut dire, et les olives noires. Vous, pendant ce temps, vous avez préparé un moule de 25 cm de diamètre que vous avez graissé. Vous façonnez votre pâte en boule. Après, vous la disposez dans le moule et vous la recouvrez d'un fil alimentaire. Vous la laissez une vingtaine de minutes reposer, mais près d'une source de chaleur hein, quand même. Après, vous retirez le film. Vous faites des trous dans la pâte avec le doigt. Vous recouvrez à nouveau d'un film alimentaire, huilé, et vous laissez la pâte lever, toujours en la mettant près d'une source de chaleur, une quinzaine de minutes. De nouveau, vous enlevez le deuxième fil alimentaire, vous arrosez d'huile d'olive et vous mettez les brins de romarin, et vous cuirez, faites la cuisson au four que vous avez préchauffé à 200 degrés, c'est-à-dire 6-7 de thermostat. Vous laissez donc cuire pendant 20 à 25 minutes et quand vous voyez en fait que la fougasse est devenue dorée hein, et après vous laissez tiédir et vous mangez ça, pourquoi pas avec un vin du choix de Dominique, notre sommelier, vous adresserez à Couleur FM, il vous donnera le vin de son choix. Et on va vous quitter sur cette recette. Vous aviez en fond musical un morceau instrumental de Warnian, avec notamment de la Zampogna, qui est une sorte de cornemuse du centre et sud de l'Italie. Voilà. Merci à tous pour nous avoir écoutés lors de cette première émission. Bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir. Laurent.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.